La maladie à virus Ebola reste toujours contenue dans les secteurs de Djerak et les territoires de Boindé dans la province de l'Équateur. Dans ce cas, des malades reçus depuis le début du mois d'août dernier, 32 décès sont enregistrés. Affirmation du ministre de la Santé le week-end dernier à Kinshasa. Félix Kabangé-Numbi, qui revient de Djerak, a annoncé les renforcements des mesures pour empêcher toute contamination nouvelle. Cependant, selon lui, il existe encore des défis importants pour mettre définitivement fin à cette épidémie dans les délais de 45 jours. Quelle analyse faire de la lutte contre Ebola en RDC? Nous en parlons avec le Dr Faustin Tchengue, il est directeur de cabinet adjoint au ministère de la Santé publique. Bonsoir Dr Faustin Tchengue.
Bonsoir Monsieur Blaise.
Blaise Kouseka, il est président de la commission justice et paix de l'université de Kinshasa. Cette structure a organisé une matinée scientifique à Kinshasa sur la lutte contre le virus Ebola. Bonsoir Blaise Kouseka.
Bonsoir Monsieur Junel.
Et Dr Kabamba Mbwebwe, il est médecin à l'hôpital général de Kinshasa. Il est président du parti politique Front Patriotique de la plateforme G14 de l'opposition. Bonsoir Dr Kabamba Mbwebwe.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La maladie à virus Ebola reste toujours contenue dans les secteurs de Djerak, territoire de Boindé, dans la province de l'Équateur. Des 59 cas de malades reçus depuis le début du mois d'août dernier, 32 cas de décès cumulés sont enregistrés, dont 9 cas confirmés par les laboratoires. Ainsi, le gouvernement de la RDC, avec l'aide de ses partenaires, vient de renforcer les mesures pour empêcher toute contamination nouvelle. C'est notamment la construction des centres de traitement et les renforcements des contrôles à l'entrée et sortie de Djerak. Toutefois, les défis logistiques reste important pour mettre définitivement fin à cette épidémie dans les délais de 45 jours. Affirmation du ministre de la Santé, Félix Kabangé-Numbi, à la presse samedi dernier. C'était à l'issue de sa visite effectuée la semaine dernière dans les territoires de Boindé. Ses propos sont recueillis par Emmanuel Elamegi Wakabedi.
À ce jour, le nombre de décès cumulés, y compris certains décès qui sont morts dans la communauté, nous sommes à 32 cas de décès. Et parmi ces 32 cas de décès, il y a 9 qui ont été confirmés au laboratoire, 13 probables et 10 cas suspects. Nous avons décrété que personne ne peut entrer dans le secteur de Djerak s'il n'a pas la note du docteur Kebela, qui est le président du Comité international de coordination technique et scientifique. Nous avons décrété que tous les enterrements dans le secteur de Djerak, que ces enterrements soient liés à un cas d'Ebola ou non, ce sont nos services qui assurent l'enterrement. Pour tout avion qui atterrit et qui décolle en Bandaka, tout le personnel est checké. Les dispositifs de lavage de mains ont été placés au niveau de l'aéroport. Tout cas de fièvre automatiquement est débarqué de l'avion. Donc je tiens à affirmer encore une fois ici qu'il n'y a pas épidémie d'Ebola en Bandaka.
Docteur Faustin Tchengue, je rappelle que vous êtes directeur de cabinet adjoint du ministre de la Santé publique. Le ministre a tenu une conférence de presse le week-end dernier pour faire le point sur la lutte contre Ebola et à l'occasion, il a annoncé un certain nombre d'informations. Et comment vous analysez la lutte contre Ebola en RDC?
Merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir participer à cette émission. L'épidémie de la maladie à virus Ebola, c'est une épidémie qui a commencé, qui a été déclarée dans notre pays depuis le 24 août dernier par le ministre de la Santé.
Et la septième épidémie.
La septième épidémie, bien sûr, parce que la première a eu lieu dans le même pays en 1976. Et compte tenu de cette expérience déjà par le passé, eh bien, on a mis cette fois-ci en marche toute une batterie de mesures dont certains viennent d'être énoncés tout à l'heure par le ministre dans le point de presse qu'il a fait le samedi dernier. Donc ça fait que cette épidémie, l'objectif que nous avons dans la lutte contre cette épidémie, cette fois-ci, c'est de pouvoir vraiment la contenir dans le territoire de Djerak, où elle se situe pour le moment. C'est pourquoi on a pris toutes ces mesures de manière à ce qu'on ne puisse pas avoir...
Dans les territoires de Boindé.
Le territoire de Boindé, je m'excuse, mais c'est dans le secteur de Djerak. Donc, il faudrait qu'il n'y ait pas d'entrée. On a pris carrément ce territoire, on l'a mis en quarantaine. C'est-à-dire, comme l'expliquait le ministre, il n'y a pas d'entrée. il n'y a pas, il y a des entrées, c'est essentiellement le personnel de la santé, mais qui doivent requérir cette autorisation du Dr Kebela qui est sur place. Mais aussi, il n'y a pas de sortie pour la population, de manière à ce qu'on puisse contenir cette épidémie vraiment dans ce territoire.
Alors, le ministre a parlé des nouveaux chiffres, il a parlé des 59 cas des malades reçus depuis le début du mois d'août dernier, dont 32 décès. Cela veut dire qu'il y a encore 27 personnes qui sont là. Est-ce que ces personnes sont isolées?
Bien sûr. À partir du moment où une personne est considérée comme étant un cas suspect ou un cas probable, ces personnes sont isolées jusqu'au moment où on va confirmer par le laboratoire qu'ils sont ou qu'ils n'ont pas le virus Ebola dans leur sang. Mais je voudrais d'abord ici rectifier les statistiques. Parce que je viens tout droit d'une réunion que son Excellence Monsieur le Ministre a présidée tout à l'heure. Les statistiques ont été actualisées. Aujourd'hui, nous en sommes à 62 cas. 62 cas enregistrés et 35 décès qui sont enregistrés à ce jour, dont 9 ont été confirmés au laboratoire. Je pense que c'est important de pouvoir actualiser les statistiques parce que la maladie est en train d'évoluer, mais bien sûr, elle n'évolue pas à grands pas comme peut-être en Afrique de l'Ouest, comme vous le savez.
Alors, on sent qu'il y a des cas qui s'ajoutent. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'évolution positive?
Alors, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'évolution positive. Le problème que nous avons ici, c'est que lorsque nous parlons de cas qui sont probables, ce sont des cas qui ont été, disons, en contact avec un malade, mais il faut les suivre, parce que pour que la maladie puisse se déclarer, il faut attendre au moins 21 jours. Donc ces cas sont suivis.
C'est la période d'incubation.
C'est la période d'incubation. C'est au bout de 21 jours que vraiment on peut décider que cette personne, quand bien même elle était en contact avec un malade qui probablement est décédé, eh bien cette personne n'est pas malade. Il y a aussi les cas suspects. Les cas suspects sont des cas qui présentent peut-être déjà des signes de virus Ebola, enfin par exemple la fièvre, tout ça, mais il faut savoir que toute fièvre n'est pas due au virus Ebola. Mais compte tenu du contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement, eh bien, il y a des malades qui présentent par exemple de la fièvre qu'on essaie également de mettre en quarantaine de manière à ce qu'on puisse faire les investigations jusqu'au moment où on va conclure qu'il n'a pas le virus dans son sang par le laboratoire et en ce moment-là, on décharge la personne. Donc, nous préférons pêcher, disons, par excès que par défaut.
Alors, les personnes malades qui sont isolées, comment sont-elles prises en charge? Elles sont nourries? Les personnels médicaux, les personnels soignants, est-ce qu'ils sont protégés?
Bien entendu. Dans la lutte contre Ebola, je pense que l'une des mesures phares qu'il faut absolument, c'est la protection. Parce que, comme vous le savez peut-être, la contamination, c'est par le contact d'homme à homme. Et que donc, toutes les mesures sont prises pour que le personnel de santé ne se contamine pas. C'est vrai que dans les statistiques que nous donnons, il y a eu quand même déjà quelques décès des personnels de santé. Mais c'était avant qu'on déclare l'épidémie. Donc, ces gens-là sont décédés, mais depuis qu'on a déclaré l'épidémie, les mesures sont prises et le personnel n'est pas contaminé. Maintenant, en ce qui concerne les malades, ceux qui sont mis en isolement, eh bien, ils sont pris en charge, aussi bien sur le plan médical que sur le plan psychosocial. Et donc, il y a également de la nourriture qu'on leur donne. Et ça, c'était pris en charge, notamment par le gouvernement, avec ses partenaires, qui sont en train, justement, de faire des efforts énormes, justement, pour essayer de gérer de manière responsable cette épidémie.
Alors, vous avez dit, parmi les mesures prises pour renforcer, n'est-ce pas, cette lutte, tout le secteur de Djera est mis en quarantaine, personne ne sort, personne n'entre. Et tous ces villages, au moins une trentaine de villages, comment ces gens vivent-ils?
Oui, vous avez raison, bien sûr, il y a 23 villages, nous les avons déjà identifiés, on en a en tout cas dénombré 23. Il y a des mesures qui, c'est vrai, nous sommes encore au début, ça fait presque 2 semaines maintenant, que depuis l'épidémie a été déclarée, mais cette question, nous l'avions déjà dès le départ. À partir du moment où on a mis les gens en quarantaine, il est tout à fait logique et responsable de pouvoir, parce que ce sont des gens qui vivent essentiellement de la chasse, et que donc nous leur demandons de ne plus faire des mouvements dans la forêt, de faire des déplacements, et que donc ces gens, il est responsable de le prendre aussi en charge sur le plan alimentaire. C'est ainsi qu'il y a des pourparlers pour le moment, je pense que c'est en train d'aboutir. Au moment où je parle, le ministre est en réunion avec notamment les partenaires, dont le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, justement pour arriver à mobiliser aussi des vivres pour la population.
Oui, docteur Tchengue, MSF, Médecins Sans Frontières, vient de construire un centre de traitement des malades d'Ebola d'une capacité de 12 lits à Lokolia, situé à environ 60 km de Boindé. Là, il se pose deux problèmes. Le premier, c'est le nombre de lits. Hein. Vous pensez que 12 lits, c'est suffisant? Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est la distance. Et les malades qui est à Boindé et qui doit se faire soigner à Lokolia, il doit parcourir au moins 60 kilomètres avec tout ce qu'il y a comme risque. Vous pensez que c'est rationnel d'installer un centre à Lokolia?
Mais écoutez, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que Lokolia est l'épicentre de l'épidémie. La plupart des cas, je dirais même les 80% des cas qu'on a eu jusque-là, c'est à Lokolia. Et que donc, il est tout à fait responsable de pouvoir baser ce centre de prise en charge à Lokolia. Alors, vous posez le problème de nombre de lits. Oui, mais là, ce qu'il faut savoir dans la gestion de cette épidémie, je dois ajouter le fait que, à partir d'aujourd'hui, nous venons d'installer à Lokolia aussi un laboratoire mobile. Parce que ce qui est important dans la gestion de l'épidémie, c'est quoi? C'est comme je vous l'avais dit que le nombre de cas sont en train d'augmenter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de cas qu'on a mis en quarantaine, mais qui probablement ne sont même pas malades. Alors, c'est pourquoi on vient de mettre maintenant en place un laboratoire sur place, de manière à ce que, une fois qu'il y a un cas qui est suspect, un cas qui est probable, eh bien, très rapidement, on prélève le sang, on teste au laboratoire. Et si le laboratoire dit que c'est négatif, automatiquement on décharge le malade avec tous ses contacts.
Voilà. Le ministre avait aussi parlé des défis logistiques qui restent importants pour mettre définitivement fin à cette épidémie dans un délai de 45 jours. Quels sont ces défis?
Mais écoutez, il y a des défis très énormes sur le plan logistique, tout à fait. D'abord, la plupart du matériel, la plupart des équipements dont nous disposons, nous devons les amener de Kinshasa jusqu'à Boindé et puis à Lokolia. Kinshasa, Boindé, nous sommes en train d'organiser actuellement deux navettes de vol par semaine. C'est-à-dire chaque semaine, il y a deux vols, deux cargos qui quittent Kinshasa pour Boindé. Mais il y a également quatre vols par semaine qui sont organisés de Mbandaka à Boindé. Parce que c'est le seul endroit où on a une piste d'aviation. Maintenant, de Boindé à Lokolia, vous l'avez bien dit, nous sommes obligés d'utiliser les véhicules. On utilise les véhicules, il y a déjà suffisamment de véhicules qui sont sur place, qui essaient de convoyer tout le matériel qu'on amène à Boindé jusqu'à la rive gauche, enfin à la rive de la rivière Lomela. Parce qu'à partir de là maintenant, il faut un bac pour traverser la rivière et finalement arriver à Lokolia. Donc ça sont des défis assez importants auxquels nous sommes en train de faire face sur le plan logistique.
Merci Blaise Kouseka. Je rappelle que vous êtes président de la commission justice et paix de l'université de Kinshasa. Votre soutien a organisé une matinée scientifique à Kinshasa sur la lutte contre le virus Ebola. Comment vous analysez la lutte contre Ebola en RDC?
Merci beaucoup pour l'invitation. Bon, nous avons en conscience vraiment salué les efforts du gouvernement, notamment les déplacements du ministre jusqu'au site même du virus. Ça, c'était très bien vraiment salué. Mais comme on dit, le virus a comme principaux réservoirs la chauve-souris et le singe. Et ce sont des animaux qui vivent dans les forêts équatoriales. Et la forêt la plus importante d'Afrique, c'est ici chez nous au Congo. Pour dire, c'est un territoire où on aura suffisamment, donc il y a la possibilité que nous soyons toujours exposés à la fièvre Ebola, vu la population énorme de singes, de chimpanzés, de chauves-souris. Mais nous avons un peu eu des regrets par rapport aux mesures d'attaque de ces virus. Il y a pratiquement, donc c'est depuis 1976 comme l'a dit mon prédécesseur qui a le virus, mais il n'y a pas un programme national équipé, laborieux, hein, qui puisse essayer de contourner le danger et mettre en place, je ne sais moi, des paramètres de maîtrise. Pourquoi pas aller jusqu'à la découverte des médicaments à même de guérir, ou bien trouver des sérums, ou bien je parlais de vaccins efficaces et crédibles. Donc c'est important, c'est regrettable par exemple que le peu de médicaments qu'on emploie viennent de l'étranger où il n'y a même pas de maladie d'Ebola. Alors nous-mêmes, jusque-là, il n'y a pas un peu d'avancée. Alors que nous avons des cerveaux, nous avons des gens capables d'aller de l'avant dans tous les sens. Les docteurs Mouyembe dont on parle est exploité ici et là par rapport au virus. Mais chez nous, on a des potentialités, mais on ne sait pas prendre au sérieux cette fatalité pour mettre en place des mesures qui peuvent minimiser ces dangers.
Voilà, à l'issue de cette matinée scientifique, vous avez dit, autant qu'on s'investit pour traiter la maladie, on doit s'investir dans sa prévention. Ouais. Et à la question de savoir comment expliquer la résurgence de cette maladie en RDC, le ministre Kabange Numbi avait, le 25 août dernier, répondu qu'il y a des surveillances épidémiologiques, mais il avait relevé une difficulté, c'est la ressemblance des symptômes d'Ebola avec ceux d'autres maladies. Et à votre avis, comment peut-on contourner cette difficulté?
Bon, ça c'est ça relève des études approfondies par rapport à la maîtrise ou bien disons au comportement du virus. Ils sont des types différents. On parle généralement de 5 ou 6. Alors chaque virus a son comportement. Alors si on avait un laboratoire bien équipé et où on chercherait aussi un personnel approprié, il s'engagerait à analyser cas par cas et puis il cherchait des mesures thérapeutiques appropriées. Alors quand on n'a pas de matériel approprié, quand on n'est pas investi dans un programme vraiment souple et efficace, bon, on reste dans les tâtons et puis c'est pas sérieux.
Blaise Kouseka, EBSF vient de construire un centre de traitement des malades d'Ebola d'une capacité de 12 lits à Lokolia, localité située à environ 60 km de Boindé. J'ai posé la même question au docteur Tchengue. Vous pensez que c'est rationnel? C'est vrai que le docteur a dit que c'est l'épicentre de la maladie.
Bon, 12 lits, c'est trop petit, hein. Mais de toutes les façons, l'initiative, les points de départ, bon, c'est contenter de ce qu'on a, c'est bon, mais il faut que la capacité soit quand même conséquente, mais surtout aussi les personnels formés, hein, ayant les atouts scientifiques à même de maîtriser les cas de maladies devant soi. Mais quand même, c'est un bon pas, on ne peut que féliciter, mais le mieux, c'est d'aller de l'avant avec des structures beaucoup plus efficaces et puis équipées.
Alors, vous avez parlé d'un programme national pour lutter contre cette épidémie. Qu'est-ce que vous êtes allé par là?
Bon, un programme national, comme je l'ai dit, il faut rechercher des compatriotes virologues qui peuvent se mettre ensemble et ils auront un état de besoin par rapport à leurs limites. De quoi sont-ils capables? Qu'est-ce qui leur manque pour travailler efficacement face à ces virus? Alors, ils sont experts, ils savent qu'ils sont limités seulement par les moyens, mais les potentialités intellectuelles sont là. Il faudra les écouter, s'entretenir avec eux et les aider à être équipés, avoir tous les matériels qu'il faut afin de fonctionner dans de bonnes conditions. Hein, les Congolais sont intelligents, on trouve les Congolais très rodés, très, très utilisés dans des pays étrangers, aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Afrique du Sud. Ce sont les Congolais qui rendent les meilleurs des services. Il y en a qui ont mis des prix nationaux en médecine. Alors, dans ces grands pays, pourquoi pas les utiliser pour la même qualité des services ici au pays? C'est un problème d'abandon tout simplement et de manque d'initiative, c'est pas bon.
Voilà, lors de cette matinée scientifique, vous avez insisté sur la sensibilisation. La sensibilisation qui est faite actuellement, comment vous l'appréciez?
Bon, c'est une sensibilisation. Ici à Kinshasa, on n'est pas bien sûr atteint, mais à court, à moyen et à long terme, les mesures hygiéniques ne sont pas conséquentes. Vous imaginez par exemple ici à Kinshasa, il y a des familles qui ont des installations hygiéniques qui s'ouvrent directement au cours d'eau. Quelqu'un par exemple qui est malade, qui a la fièvre, qui a la diarrhée, va se soulager dans une installation hygiénique qui s'ouvre directement à un cours d'eau et ça va au fleuve. Là, on a des poissons ici que les pêcheurs nous donnent et une personne se nourrit de ces poissons et vous voyez les mesures donc les chances de progression par exemple dans une ville comme Kinshasa si par exemple on peut être atteint, ça sert vraiment déplorable. Il faut des mesures hygiéniques très énormes. J'étais l'année passée avec un compatriote au Maroc, il est allé travailler sur une expertise comparée dans le traitement de l'eau potable rien que la rivière où on extrait l'eau potable, où il y a l'installation de traitement d'eau, cette rivière est protégée du début jusqu'à l'endroit où elle se déverse à la mer. Il y a des pelouses tout autour, c'est bien protégé. On sent que l'environnement lui-même offre un cadre assez serein par rapport à l'eau. Mais nous avons une rivière d'où nous tirons l'eau des boissons, mais tout autour vous trouvez des maisons mal construites, des poubelles, des installations hygiéniques, tout et tout, et on traite, alors que ce traitement n'est pas du tout aussi très rassurant. Il y a des microbes rebelles ou bien têtus qui peuvent résister, et puis on s'ouvre à des contaminations qui peuvent davantage déranger.
Blaise Koseka, vous avez dit que le principal vecteur du virus Ebola, c'est les singes et la chauve-souris. Vous pensez qu'il est aujourd'hui facile de contrôler les activités des chasses dans nos différents villages?
C'est vraiment difficile, la sous-alimentation. Il y a même un confrère de la commission qui a proposé une des méthodes la plus efficace de lutte contre les virus. C'est quand même un courage vers un élan de l'agro-industrie, hein, une production qui puisse quand même résoudre les problèmes d'alimentation dans la capitale, dans des villes et au village. Donc il faudra quand même une agriculture assez conséquente, et si la population a une alimentation assez assurée, bon, lui dire par exemple ne t'équipe pas gentiment des singes et des chauves-souris pour un temps peut-être, et ça peut aller. Mais quand on est exposé à la souffrance et tout bon, on ne fait pas crever. Hein.
Merci, docteur Kabamba Mwebwe. Vous êtes médecin à l'hôpital général de Kinshasa. Vous êtes aussi président du parti politique Front Patriotique de la plateforme G14 et de l'opposition. Comment vous appréciez la lutte contre cette épidémie en RDC?
Je pense qu'il faut féliciter, saluer tous les efforts qui ont été faits sur le terrain. Mais il faut se dire que ce qui est en train de nous arriver ne vient pas ex nihilo. C'est en réalité la conséquence de la politique que nous adoptons sur le plan sanitaire. Comme nous avons l'habitude de le dire, la santé et l'éducation ont toujours été le parent pauvre dans des budgets, et nous en payons les frais. J'ai suivi les statistiques présentées par le ministre, je prends acte de ces statistiques. Mais un des problèmes que nous avons dans ce pays, c'est d'avoir des statistiques fiables. Je posais la question de savoir, à Djéra, il y a combien d'habitants? Dans le territoire de Bouindé, il y en a combien? Combien sont en bonne santé? Combien? Nous aurons des problèmes, parce que même le recensement n'est jamais fait. On ne sait pas quels sont les types de statistiques. On peut réellement faire confiance. Vous avez peut-être 23 villages. Qu'est-ce que cela représente en réalité? Ça, c'est une première question pour sur la fiabilité même des chiffres qui nous sont présentés, parce que j'ai vu que même en Afrique de l'Est, on a été obligé par l'OMS de pouvoir voir les chiffres. Aujourd'hui, on est à plus de 2000 morts de ce côté-là. Le deuxième problème, c'est le vécu quotidien de cette population. Vous savez, c'est une population forestière qui est habituée à prendre du gibier, justement. À partir du moment où ils sont en quarantaine, ils ne peuvent pas circuler, et vous en êtes encore aux discussions pour savoir comment vous allez les nourrir, c'est un problème de fond. J'aurais souhaité que cette émission connaisse quelqu'un qui vit vraiment à Djéra, qui puisse réagir, ou à Bouindé. Vous allez voir qu'il y a peut-être certains éléments qu'on a envie de nous donner qui ne sont pas nécessairement aussi roses que ce qu'on est en train de nous présenter pour le moment. Et le troisième et dernier élément que je voudrais souligner, c'est le partenaire extérieur. J'ai toujours eu honte de voir souvent, quand le gouvernement est en difficulté, c'est Médecins sans frontières, c'est la Croix-Rouge, c'est Mimisa, c'est finalement c'est eux qui sont là, sur le terrain. Vous nous dites qu'à le coup, on va construire un centre avec eux, c'est Médecins sans frontières. Est-ce que nous manquons de l'argent? Est-ce que vraiment la gestion est-elle actionnelle? Nous bâtissons des grandes maisons ici à Kinshasa, à Kisangani, à Lubumbashi. Et vraiment, l'État congolais manque de l'argent pour pouvoir ne fût-ce qu'assurer les conditions hygiéniques élémentaires. Parce que parfois, les manques de gants, les manques de désinfectants, des choses simples qui font que le personnel médical ou paramédical qui est sur le terrain est victime expiatoire d'un péché qu'il n'a pas commis. Alors, voyez-vous, je préfère m'arrêter là dans un premier temps.
Oui, docteur, il y a des experts qui pensent que l'un des défis à relever par la RDC, c'est la mise en place d'un laboratoire niveau 3 comme celui des Franceville au Gabon.
Oui, qui met en place? Parce que parfois vous allez poser la question, bon, maintenant c'est l'urgence, hein, c'est l'émotion, tout le monde est en train d'en parler, bientôt ça va s'arrêter, on va oublier ça. C'est ça le Congo. Hein? Nous sommes les premiers à avoir eu Ebola en 76. À l'époque. Quelles sont les mesures qu'on a prises pendant tout ce temps, une trentaine d'années? Qu'est-ce que nous avons fait? Quel est le suivi? Quel est le budget de la santé publique? Je pose toujours ce problème. On va mettre un laboratoire, mais quand vous allez poser des questions, on va vous dire que c'est un laboratoire qui a été mis sur pied par Médecins Sans Frontières. Ah, c'est bien qu'on les partenaires extérieurs viennent, je ne refuse pas leur collaboration. Mais quelle est la part du gouvernement? Même les va-et-vient qui se font en avion là, est-ce que c'est le gouvernement? Ou est-ce que c'est la MONUSCO? Ou est-ce que je peux vous poser tout un tas de questions? Moi, ça me gêne. En tant que médecin, je travaille dans la vie, dans un des plus grands hôpitaux, en fait, de la RDC, avec plus de 2 000 lits. Quand je vois comment le gouvernement s'occupe de cet hôpital, quand je vois comment l'infrastructure est vétuste, pas par la faute des médecins qui sont là-bas, par le fait qu'il y a des histoires qui sont restées depuis pratiquement les années 20 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que ça se passe comme ça? Comment cela se passe-t-il à l'intérieur du pays? Je ne voudrais pas dire que toute la responsabilité incombe au gouvernement, parce qu'au niveau de la population, nous aussi, en tant que parents, en tant qu'enseignants, en tant que médecins, nous devons tirer les oreilles de tout le monde. Mais la plus grande part des responsabilités revient au gouvernement. La qualité d'eau qu'on utilise, est-ce qu'on a d'abord de l'eau? Les maladies des mains, ça, parce que si vous prenez les virus Ebola, c'est aussi le contact. Les maladies mentales. Posez la question à n'importe quel médecin, va vous dire quel est le taux de fièvre typhoïde que nous avons, quel est le taux de paludisme, des maladies qui sont liées à la malpropriété. Donc, il y a des parts de responsabilité, mais la part gouvernementale est très importante. Si à Kinshasa, dans la capitale, nous en sommes à si haut, on peut se poser la question de savoir ce qui est en train de se passer à l'intérieur du pays, surtout à Djéla là-bas, à Bouengué.
Voilà, docteur, vous avez dit que ce qui arrive aujourd'hui est la conséquence de la politique adoptée par le gouvernement sur les plans sanitaires. N'est-ce pas une occasion pour essayer de repenser cette politique?
Oui, on l'a toujours dit. Nous l'avons toujours demandé de tout le temps. Nous sommes intervenus plusieurs fois sur cette radio pour dire que l'éducation, tant que la santé, on envisage en pauvre au niveau de nos parlements, au niveau de nos décideurs, si vraiment pour les décideurs c'est des belles voitures, c'est des belles maisons dans les chefs-lieux de toutes les provinces, qui c'est ça? Et vous dites aux gens de cette ceinture, eh bien ceux que vous envoyez au front là, soit en grand parfois, ou même quand vous envoyez des enfants pour les décideurs, là où le virus est en train de faire des ravages, comment vous maintenez le simple? C'est quoi? Protégez-vous. Il n'y a pas de danger.
Docteur?
Oh.
Allô, docteur, votre ligne est en train de se détériorer. Et est-ce qu'il n'y a pas moyen de vous déplacer, de bouger un peu?
Je
Voilà. Oui. Docteur?
Ça va beaucoup mieux?
Oui, ça va. Alors, il y a une réaction pour vous ici, au Dax Rugenda Banga Mulukiza, depuis Bikenge au Maniema. Le gouvernement congolais, pour lutter contre Ebola, doit renforcer des équipes performantes pour la sensibilisation, non seulement à Djéra, mais sur toute l'étendue du pays.
Je suis tout à fait d'accord. Ça signifie quoi? C'est comme je le disais tout à l'heure. Nous devons les médias. Dans l'encadrement des... il ne faut pas se mouvoir parce qu'il y a assez beau. Nous avons des gens qui meurent chaque jour ici, des fièvres typhoïdes, c'est dû. Et il faut même prier que ça ne puisse pas. Ici, nous, les habitudes sont tout à fait dures. Donc, il faut l'intégrer pour faire en sorte que, sur le plan concret,
allô, docteur? Nous avons du mal à vous suivre. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de vous déplacer un peu? Voilà, docteur Tchenga, vous avez suivi docteur Kabamba qui a relevé un certain nombre de faits. Hein. Il parle de la fiabilité des statistiques. Il y a combien de villages à Guéra, il y a combien d'habitants, combien sont malades, combien sont en quarantaine. Bon, il a parlé d'autres, en fait, d'un autre facteur, c'est la vie quotidienne de ces habitants qui sont à Guéra. Il a parlé aussi de l'apport du gouvernement congolais dans cette lutte qui semble ne pas être suffisant, dans ce sens que c'est beaucoup plus les partenaires extérieurs que nous voyons sur le terrain en train de poser des actes. On ne sent pas l'apport du gouvernement congolais.
Merci beaucoup encore une fois. Je crois que ce que le docteur Kabamba a dit, évidemment, il n'est pas sur le terrain. En ce qui concerne la fiabilité des statistiques, parlons-en. Heureusement, il n'a pas parlé des statistiques des malades. Je pense que là, il faut dire que, et le ministre l'a déclaré à plusieurs reprises, que nous sommes en train de gérer cette épidémie avec la plus grande transparence pour qu'il ne puisse pas justement avoir ce problème des statistiques. Donc, toutes les statistiques que nous donnons ici sont des statistiques qui ont été confrontées et qui ont été agréées au niveau du Comité national de coordination de la lutte. Dans ce comité, font partie ou prennent part dans ce comité, notamment les partenaires et même certaines ONG.
Il y a combien d'habitants à Guéra?
Écoutez, je n'ai pas le chiffre d'habitants à Guéra. C'est pourquoi le ministre l'a bien dit dans son point de presse qu'il y a une opération qu'il a lancée, justement quand il est arrivé sur le terrain, ratisser village par village. Et justement, on a dénombré un nombre de villages, mais il faut également vraiment ratisser large dans chaque village. Mais également, nous allons avoir le nombre exact justement de la population de Guéra et même de ce village là-bas par l'opération. Une deuxième opération qu'il a lancée, c'est pas un seul ménage sans désinfectant. Donc, quand on va passer à la distribution de désinfectants, on va également dénombrer. Évidemment, ce n'est pas le rôle du ministère de la Santé, bien entendu, mais compte tenu de cette urgence qu'il y a sur le terrain, nous sommes obligés de le faire. Donc, vous posez la question de combien d'habitants qu'il y a dans Guéra aujourd'hui, je ne sais pas vous répondre, bien entendu, parce que ça fait longtemps que dans ce pays, on a fait le recensement. Et ça, ce n'est pas le fait vraiment du ministère de la Santé. L'apport du gouvernement, écoutez, je pense que c'est la première fois qu'une telle épidémie est gérée jusqu'au plus haut niveau de l'État. Vous savez que la coordination de la lutte, c'est même au niveau du chef de l'État lui-même. Tout le monde l'a vu, il a convoqué tout un conseil de ministres pour cela, au cours duquel il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises, justement pour lutter contre cette épidémie. Et le gouvernement a débloqué de l'argent. Quand le Dr Kabamba dit que les vols dont je parle, c'est justement les partenaires, non, il n'y a pas que les vols des partenaires. Le ministre a été à plusieurs reprises à l'aéroport, justement pour convoyer les vols qui sont partis à Boende. Ça, c'est le gouvernement qui l'a fait. Je suis d'accord que dans cette lutte, nous sommes en train de travailler avec les partenaires. C'est dans la complémentarité. Donc, là, on ne peut pas dire que travailler avec les partenaires, c'est une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce que nous sommes dans la complémentarité et tout à fait seuls, nous ne pouvons pas tout faire non plus. Aujourd'hui, la lutte contre cette épidémie, c'est une question qui est internationale. Et que donc la lutte doit être internationale aussi. On l'a vu en Afrique de l'Ouest et aujourd'hui aussi même dans notre pays, nous sommes dans cette perspective. Donc, je crois que le gouvernement a fait et est en train de faire beaucoup d'efforts. Les descentes sur le terrain du ministre, ce n'est pas avec l'argent des partenaires, c'est avec l'argent du gouvernement. Le personnel qu'il y a sur le terrain, il n'y a pas que les MSF. Il y a beaucoup de notre personnel. Le docteur Kebela, auquel nous avons fait allusion tout à l'heure, c'est un spécialiste congolais qui est là, qui
chargé des luttes contre
la maladie. Il est là sur place, le docteur Kabamba doit le connaître. Et il est avec lui, il a toute une équipe autour de lui, des Congolais.
Voilà, docteur Kabamba a évoqué aussi le fait que Ebola est la conséquence de cette politique adoptée par le gouvernement sur le plan sanitaire. Est-ce que cette maladie ne serait pas une occasion pour l'État congolais de pouvoir repenser cette politique sur le plan sanitaire?
Voilà, j'ai même envie un peu de rire parce que dire que c'est dû à la politique, non, je ne crois pas. Vous savez que nous sommes dans une zone tropicale. Il y a beaucoup de maladies tropicales. Et ce n'est pas justement lié à la responsabilité d'un gouvernement lorsqu'il fait une politique. Aujourd'hui, le gouvernement a une politique claire de la lutte contre la maladie. Pour répondre aussi à la question dont mon ami a évoqué tout à l'heure, il y a tout un programme de lutte contre les fièvres hémorragiques, dont la fièvre Ebola. Et que donc, je pense que même si on prend un programme, il n'y aura pas un programme pour arriver pratiquement à dire, voilà, nous éradiquons la maladie. Ça, c'est une chose qui doit se faire au niveau international, bien sûr, avec la participation de la République démocratique du Congo.
Voilà. Docteur Tchenge, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Bikenge Maniema.
Otase Rugendabanga Mulikuza depuis Bikenge Maniema, ville de Kindu. Le gouvernement congolais pour lutter contre Ebola doit renforcer non seulement Adjera, mais sur toute l'étendue du pays, des super équipes pour la sensibilisation des moyens de lutte contre cette épidémie à la population congolaise.
Est-ce que vous avez pensé à tous les pays?
Bien entendu, je pense que nous avons été les premiers, avant même que notre épidémie ne soit déclarée, quand l'épidémie était déclarée en Afrique de l'Ouest, nous on avait déjà pris beaucoup de mesures justement qui concernaient tout le pays. On a même un plan de contingence, c'est-à-dire le plan de prévention contre l'épidémie à virus Ebola. Et ce plan a été longuement discuté, même dans les médias. Donc, il y a des mesures qui ont été prises bien avant et qui continuent à être prises à travers le pays.
Oui, Monsieur Blaise, nous allons prendre pour vous cette question qui vient de Kolosi au Katanga.
Professeur Ignace Ndala, depuis Kolosi au Katanga, l'implication directe du ministre de tutelle et les mesures prises sont plus que salutaires, mais la sensibilisation de toute la communauté, une bonne prise en charge aussi bien du personnel soignant que celui commis au contrôle du mouvement des populations sont des impératifs à ne pas négliger.
Oui, comme je l'ai dit, il a très bien posé la question. Disons, il faut une très très bonne sensibilisation, une explication des modes de contamination et consorts. Et bon, lutter efficacement, hein, comme l'a dit mon confrère, il dit, bon, il y a un programme déjà de lutte contre les maladies virales, mais c'est bien, au Congo, beaucoup de structures existent, mais à titre d'être dénominationnel. Mais il faudra savoir de quoi sont-ils capables, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, quel matériel ont-ils par rapport à cette gravité, disons, du virus. Alors, est-ce qu'il y a possibilité vraiment de faire mieux, hein, d'avoir des stratégies, des matériels, des prospectives, hein, une vision, une démarche qui puisse vraiment prendre en charge cette épidémie. Alors, pourquoi, par exemple, on ne sent pas l'influence de ces programmes, de cette structure, on va de l'avant avec les virus. C'est nous qui serions, je ne sais moi, les plus expérimentés, puisque le pays a déjà été touché depuis 1976. On serait très avancé en expertise, voire en mode de lutte. Mais où en sommes-nous? Vraiment un appel à des méthodes de travail, à des méthodes préventives efficaces et puis fiables, que de laisser les gens, je ne sais moi, dans quelques, je ne sais moi, bureaux en plastique, et puis ils vont là le matin passer leur temps à s'échanger autour des futilités. Bon, et après, on ne sent pas une prise en charge, la même pathologie revient, et puis crée des dégâts très déplorables. Et puis,
Blaise Kouseka, il y a deux nouvelles stratégies qui ont été annoncées par les ministres. Le docteur Tchenge les a rappelées ici, hein, l'approche village par village. Il y a aussi pas une parcelle sans désinfectant dans les secteurs des Djera. Comment vous appréciez ces deux stratégies?
Bon, c'est bon. C'est bon. Mais le plus important, c'est les programmes avec le PAM. Ce qui va vraiment créer plus d'ennuis, c'est la sortie pour chercher de quoi se nourrir tout. Tant que les gens seront affamés dans les villages, ils sortiront et puis il y aura toujours gravité et puis continuité de la maladie. Mais le désinfectant, c'est très bien. Mais les moyens de lutte aussi, puisque bon, on se désinfecte. Quand il n'y a pas de bonnes méthodes, de bonnes stratégies assez maximales, hein, pouvant mettre la personne à l'abri de contamination, il y aura toujours des risques. Et puis, je ne sais pas si l'expertise congolaise explique déjà que c'est seulement le contact qui crée, qui provoque la maladie. Un virus a plusieurs méthodes par proximité. On ne sait pas comment ça peut encore se passer. Donc, je suis pour les désinfectants, mais il y a lieu d'aller encore mieux en méthode préventive.
Voilà, il est prévu la rentrée scolaire dans ces secteurs d'ici une semaine. Avec toutes les mesures qui ont été prises, vous pensez que les conditions seront réunies pour que les enfants puissent retrouver le chemin de l'école d'ici 7 jours?
Qu'on laisse les enfants, en tout cas nous, on a fini les études, je ne sais moi, secondaire, primaire, secondaire un peu en retard à cause des choses de ce genre, ou bien société politique, des grèves et consorts, mais on connaît tous pas la vie des enfants à l'école, alors que les climats, les climats n'est pas bon, hein, et les virus, c'est quelque chose de très dangereux, c'est ici où on prend un peu la mort un peu à la légère, mais perdre un citoyen dont on ignore les ressources véritables, hein, qui le constituent en matière de technologie, en matière de sciences ou bien de quoi, c'est très grave, hein. Un mort, deux morts, c'est curieux, et puis c'est une grande perte. Donc autant rester jusqu'à ce que la situation sera maîtrisée, et après ils vont revenir à l'école, hein. C'est pas la peine d'aller risquer la vie pendant ces moments.
Docteur Kabambamboué, est-ce que vous êtes en ligne?
En ligne, oui.
Voilà, parmi les mesures qui ont été prises par le ministre, il y a aussi, en fait, il a annoncé que désormais tous les cas de fièvre sera débarqué des avions et pris en charge directement par une équipe médicale. L'on parle aussi de la distribution des thermomètres à laser au niveau de tous les ports de l'Équateur. Docteur, pourquoi l'on semble insister sur la fièvre quand on sait que la fièvre n'est pas l'unique symptômes de cette maladie et que cette fièvre-là, c'est un symptôme qui est commun à beaucoup de maladies. Pourquoi on insiste sur la fièvre?
Oui, parce que bon, c'est difficile peut-être de faire la part de choses entre la fièvre d'une malaria et la fièvre d'Ebola et tout ça. Je crois que c'est un des signes par mesure de précaution. Hélas, il y a des personnes qui seront sanctionnées inutilement parce qu'ils ont une fièvre pour d'autres raisons. Mais moi, je reviens sur le fait que tout cet engouement-là, c'est un phénomène qui va passer après, peut-être que Ebola va se taire. Mon problème, mon propos, c'est pour réveiller le Congolais et réveiller le confrère qui est en train de parler, le directeur du cabinet du ministre. C'est un médecin comme moi. Je crois que nous devrions parler le même langage pour insister sur le fait que le budget qui est alloué à la santé puisse être amélioré. Malgré ce qu'il est en train de raconter là-bas, pour dire non, écoutez, c'est le gouvernement qui a payé ceci, c'est le gouvernement qui a payé cela, on est en train de le faire dans l'immédiat. Mais après, allez voir quel est le taux, l'argent qu'on donne à la santé, combien on donne aux institutions politiques, combien on donne, et puis on va retomber encore. C'est ça le problème. Il ne faut pas s'arrêter parce que aujourd'hui Ebola est là, nous donnons l'impression d'être très actifs, ainsi de suite. Comment, dans la durée, faire en sorte que l'hygiène de tous les Congolais, comment faire en sorte que l'enseignant, comment faire en sorte que les leaders religieux, le médecin, tout le monde, nous nous mettions au travail pour améliorer l'hygiène de tout le monde, pour que l'État mette dans les hôpitaux de l'État des moyens, pas des hôpitaux qui sont des mouroirs. C'est ça le problème. Parce que si à Kinshasa, nous voyons déjà ça. Vous voyez ce qui peut se passer de l'autre côté. Mais là, on est en urgence, bien sûr. Il y a des choses qu'il faut faire, parce qu'il faut arrêter l'épidémie à tout prix.
Merci, docteur.
Et aussitôt que l'épidémie va s'arrêter, même le confrère qui va parler, qui est en train de parler, 5-6 mois après, on va parler d'autres choses, on va oublier, on va retomber. Et c'est contre ça que je m'érige.
Merci, docteur. J'ai considéré ça comme votre conclusion. Docteur Fortin Tchengue, la rentrée scolaire, c'est dans une semaine. Vous pensez que les conditions seront réunies pour que les élèves puissent aller étudier? Ça sera sur votre conclusion?
Oui, moi, je crois que le problème ici, ça n'a rien à voir avec la rentrée scolaire. Si on l'a différée, c'est tout simplement parce que nous avons estimé que les élèves peuvent être également aussi un canal très important pour sensibiliser la population. Il ne faut pas donner faut pas créer une sorte de psychose. Donc, nous avons pensé que cette semaine sera essentiellement consacrée à ce que les enseignants puissent être formés de manière à ce que la première leçon qu'ils vont donner aux élèves soit seulement celle-là de sensibiliser. Et ces derniers vont également aller
étudier. Donc, dans 7 jours, les élèves peuvent aller étudier.
Ils peuvent aller étudier.
Monsieur Blaise, c'est quoi votre conclusion?
Bon, je me dis, si cette rentrée peut être effective, ça doit partir de pronostics médicaux assez avérés, assez sûrs. Hein. Si le virus est encore efficace, autant laisser les enfants dans la maison. Et ils savent, ils sont informés de tout et puis ça ira. Mais qu'on mette vraiment en place un programme efficace pour l'avenir, c'est pas bon, les temporels, tout c'est pas bon.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Mimi Kindou qui était à la technique, à Alain Irung, Kelly qui m'ont aidé à préparer cette émission, sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe, devant tes micros, Guy Maté, merci et bonne suite du programme sur Radio Capi.